Est-ce que tu détestes conjointement les vélos, les piétons et Anne Hidalgo?
Oui, oui, clairement, clairement.
Les trois ou un seul des trois?
Les trois, les trottinettes aussi.
Ah, les trottinettes, j'ai oublié les trottinettes.
Les trottinettes.
J'habite plus sur Paris, j'ai oublié les trottinettes.
Les trottinettes.
Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation. Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans Paris. Je suis allé à la rencontre de Christophe qui est taxi dans la capitale. Taxi pour lui, c'est une deuxième vie professionnelle. Ces dernières années, il a donc découvert les embouteillages au quotidien, mais aussi et surtout le contact avec les clients. Car au-delà de la conduite, taxi, c'est aussi un métier humain où on rencontre plein de gens très différents les uns des autres. Et vous allez le voir, on se retrouve parfois dans des situations plutôt étonnantes. Vous allez aussi entendre que Christophe n'a éludé aucun sujet sur son métier. On a parlé argent, VTC, clichés, plein d'autres choses, à commencer par les embouteillages que j'ai dû subir pour le rejoindre. C'était pas du tout la question que j'avais prévue pour commencer, ouais. Mais comme je sors de 2h30 dans ma voiture, je suis obligé de commencer par ça. Comment on fait pour pas devenir dingue quand on passe sa journée assis dans les embouteillages à Paris?
Comment on fait? On prend sur soi. Alors moi, quand j'ai démarré, ça a été très compliqué. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. C'est tout le temps bouché. Hein. Paris, ça fait partie du folklore parisien. Mmh. Les bouchons, c'est comme ça. Ça fait partie de notre métier de taxi. Au début, c'est très compliqué, mais on se rend vite compte que si on prend pas un peu de la distance par rapport à ça, on tient pas dans le métier. On tient pas.
Et donc, tous les matins, tu te lèves en te disant, je vais aller dans les bouchons pendant X heures, c'est pas grave.
C'est ce qu'il faut se dire. Après, on calcule, hein, parce que on sait très bien, on connaît les horaires où il y a des bouchons. Moi, je sais, par exemple, le matin, j'essaie de partir de chez moi avant 6 heures pour être sûr d'être sur Paris avant les bouchons et commencer dans Paris pour avoir les bouchons pour le travail. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident.
Quand ça roule, ça suppose quand même que t'aimes passer du temps derrière un volant et que t'aimes conduire.
Oui. Voilà. Pour ma part, c'est ça.
C'est un prérequis.
Franchement, celui qui aime pas conduire, pour moi, pour moi, il fera pas long feu dans ce métier.
Donc t'en as jamais marre, toi, d'être dans une bagnole?
Non. Non, c'est vraiment, je prends vraiment plaisir à conduire, surtout quand ça roule. Là, je prends vraiment du plaisir. Et après, dans les bouchons, c'est vrai que c'est frustrant. Mais des fois, ça peut être sympa quand t'as un client avec qui t'as un bon feeling. Mmh. On discute. C'est bien parce que c'est ça qui fait la richesse de ce métier, c'est que on découvre vraiment beaucoup de choses. Mmh. On a vraiment de tout. On a la personne qui va pas du tout parler, celle qui va aller énormément parler, et aussi les personnes avec qui tu vas tisser un lien, parce que moi je sais que j'ai développé une clientèle perso et que je retrouve régulièrement, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui quand je les ai, je prends vraiment plaisir. On est quasiment devenus amis parce qu'on partage des choses de notre vie ensemble, et c'est agréable.
Si je comprends bien, l'attrait des doubles, c'est conduire et faire de l'humain, du relationnel.
C'est ça. Moi, c'est vraiment ça que c'est comme ça que je vois le taxi, vraiment ce côté humain et côté plaisir de conduire.
Donc toi, t'es un taxi qui parle ou un taxi qui dit rien? Parce que ça a l'air de se diviser en deux grandes catégories. Il y a les taxis qui parlent tout le temps et les taxis qui ne te disent rien et tu n'oses pas parler.
C'est vrai. Alors moi, je m'adapte. Je m'adapte en fonction de la clientèle. De base, je suis quelqu'un de très bavard, ça c'est sûr. Mais voilà, après, c'est une question d'habitude. On ressent quand le client il a envie de parler ou quand le client il a pas du tout envie de parler. On le voit tout de suite. Je m'adapte. Je m'adapte en fonction des besoins du client.
Tu sens l'ambiance.
Voilà, c'est ça.
Tu sens l'ambiance.
Je teste.
Il y a un côté psy, non, des fois?
Alors, oui. Ça m'est arrivé, une petite anecdote. J'ai pris un client. On est resté 20 minutes dans la voiture. Et en fait, il a eu une expérience amoureuse assez délicate. Et du coup, j'ai essayé de l'aider à relativiser, me demander des conseils, des choses comme ça. Donc, on peut avoir un côté psychologue parfois. Ouais.
Tu disais, tu arrives même à créer des amitiés avec les clients réguliers, quoi.
Oui. Oui, bah moi ma première cliente, enfin c'est pas ma première cliente dans le taxi, mais c'est ma première cliente que j'ai fidélisée. Mmh. Grâce à elle, j'ai quand même réussi à développer. Avec elle, j'ai réussi à démarcher quand même 6 ou 7 clients grâce à elle. Mmh. Et de temps en temps, on arrive à s'envoyer des messages. Je lui envoie un message pour son anniversaire, elle m'envoie un message pour mon anniversaire. On se fait des petits cadeaux comme ça à Noël, des choses comme ça. Donc voilà, on est. Bon, c'est pas une amie proche, mais voilà, je pense qu'on a tissé un petit lien d'amitié et c'est quand même relativement intéressant, quoi.
C'est intéressant parce que ça montre aussi qu'un taxi, c'est pas seulement quelqu'un à qui on fait signe dans un film, il prend 5 minutes, il dépose. T'as des clients réguliers dans, quand t'es taxi.
Moi, alors, c'est un choix. Il y en a qui n'aiment pas du tout faire ça. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que. Parce que j'aime bien avoir ce lien social avec les gens. Et aussi, ça permet aussi de pouvoir prévoir sa journée. De savoir que tel jour à telle heure, j'ai tel client. Et voilà, ça évite de se torturer des fois la tête à se dire par où je vais commencer. Donc, moi, je trouve que c'est une facilité. Après, des fois, c'est pas toujours en termes de rentabilité, c'est vrai que parce qu'il y a beaucoup de taxis qui pensent rentabilité. Enfin, c'est pas un reproche, hein. Bien au contraire, hein. C'est sûr que des fois il faut penser aussi à la rentabilité. Mais c'est vrai que des fois c'est pas vraiment rentable parce qu'à un moment donné, je suis à l'autre bout de Paris, je dois aller chercher un autre endroit. Des fois ça me coûte un peu parce que je fais des kilomètres à vide, donc perte de rentabilité.
T'as pas le droit de prendre quelqu'un entre deux, par exemple?
Alors, si, je peux, mais c'est risqué.
Parce que ça peut te décaler,
On ne sait jamais où est-ce qu'on va tomber.
D'accord.
Parce que pour l'avoir fait, à tort, je l'ai fait, mais à tort. Mais du coup, oui, ça a quand même bien décalé. Après, y a toujours des imprévus. Hein. Pas plus tard qu'hier, par exemple, je devais avoir un client. Finalement, j'ai pas pu aller le récupérer parce que j'étais à l'autre bout. J'étais à plus d'une heure à cause des bouchons, des intempéries, tout ça. Après, quand c'est mes clients perso, ils sont plutôt compréhensifs. Donc ça va. Et après, il faut savoir amener les choses.
C'est une Prius.
Alors ça c'est la Rolls-Royce
d'un
taxi.
Il y a de plus en plus de taxis qui ont des Prius.
Oui.
Et pourquoi c'est la Rolls-Royce du taxi alors?
Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui coûte très peu cher en entretien et qui est très fiable. Niveau fiabilité, on fait pas mieux. Il y a des chauffeurs de taxi qui ont les premières Prius Plus. Elles ont 7-8 ans et elles tournent encore.
Elle a combien de bornes, ta
valeur? Là, la mienne, elle a 185 000.
185 000 km.
Ouais, en 2 ans et demi.
Quoi, en 2 ans et demi?
En 2 ans et demi.
Parce que j'allais dire, elle a l'air neuve.
Oui, mais en 2 ans et demi, c'est 185 000 km.
Ouais, le cliché, c'est vrai que c'était très Mercedes.
À une époque, c'était très
Mercedes. Mercedes à Toyota.
Voilà, parce que Mercedes, on se rend compte que ils perdent en fiabilité. Alors, attention, ce qu'il faut mettre entre parenthèses, c'est qu'aujourd'hui, nous, les problèmes, ils arrivent assez. Rapidement, pour la simple bonne raison, c'est qu'on fait plus de kilomètres que monsieur et madame tout le monde. Voilà.
Combien de fois tu dois faire l'entretien par an si tu fais 90 000 bornes?
En moyenne, je fais un entretien tous les un mois et demi, voire deux mois.
Ah oui, donc ça te l'immobilise une demi-journée
C'est ça.
Ouais,
c'est ça. Donc, après, moi, comme je suis en location gérant, je vais pas me prendre la tête avec ça. Je l'emmène au garage, il s'occupe de tout et je la récupère après, quoi.
Parmi les clients plus inattendus, ou en tout cas au coup par coup, est-ce que tu as déjà été témoin de trucs un peu dingues, d'histoires quelqu'un qui rentre dans ta voiture en te criant « suivez cette personne » ?
Alors non, j'ai pas eu ça, j'ai eu quelques trucs assez atypiques, j'ai eu deux cas, j'ai eu deux femmes alcoolisées. Alors il y en a une qui m'a dragué pendant tout le trajet. C'était très drôle parce que c'était vous avez une conduite sensuelle, vous avez des mains sensuelles. Enfin ça a été ça comme ça tout le long du trajet. C'était très très drôle. Après elle était très gentille, mais ça fait sourire. Après d'autres fois un peu moins bien parce que au final elle m'a payé qu'une partie de la course. Bon, et voilà, c'est le côté un peu dommageable dans notre profession. Mais après non, des anecdotes. j'en ai pas eu tant que ça.
Après, là où je voulais en venir aussi, sur ce que tu dis, l'alcool, etc., ça peut être un métier. Est-ce que ça peut être un métier dangereux, en fait, quand tu fais le soir, notamment ?
Ça peut être dangereux. Mmh. Ça peut être dangereux. Récemment, il y a eu des taxis qui se sont fait agresser. Mmh. Assez violemment, parce que déjà, il y en a un qui s'est pris un coup de cutter au niveau du cou.
Ah oui.
Il n'y a pas très longtemps de ça pour lui voler son véhicule. Après. On est conscient de ce risque. Mmh. On est quand même conscient de ce risque. Moi, personnellement, j'essaye de pas trop y penser parce que travailler avec la peur, c'est pas génial. Mmh. Donc, mais voilà, il faut quand même savoir que ça peut arriver parce que déjà, pour la plupart des taxis, on a des véhicules qui sont quand même coûteux pour la plupart. On transporte de l'argent aussi, mmh. forcément, parce que dans le taxi, il y a quand même pas mal d'espèces qui circulent. Donc, c'est vrai que on peut être sujet à ce genre d'agression.
Tu prends des précautions particulières ?
Alors, moi, je sais que je prends des précautions particulières. Par exemple, arriver à une certaine heure de la nuit. Enfin, déjà, je ne travaille pas la nuit. Le plus tard que je fais, et encore, c'est vraiment exceptionnel, c'est 1h, voire 2h du matin. Mmh. Mais passer à partir de 22h, je sais que dans certains quartiers, j'y vais plus, sauf si on me demande d'y aller. Mmh. Je ne prends pas en charge. Je travaille quasiment que avec la radio, donc je prends quasiment que des clients en radio. Donc c'est des petites précautions qu'on peut prendre. Après, on n'est jamais à l'abri non plus, hein, parce que même la radio, ça peut arriver qu'on tombe sur des gens mal intentionnés. Donc voilà, on va dire les risques zéro n'existent pas comme dans beaucoup de choses.
Qu'est-ce que tu appelles un client radio ?
Alors un client radio, c'est un client qui passe par l'intermédiaire d'une plateforme de réservation spécialisée dans le taxi. Mmh. Alors moi je suis affilié à une radio qui s'appelle Alpha Taxi. Mmh. Donc en fait j'ai un terminal qui me géolocalise en permanence. Et en fait, quand je suis libre, s'il y a un client qui est dans le coin qui appelle un taxi, okay. je reçois la course, je l'accepte ou je ne l'accepte pas, et je vais le chercher et je l'emmène et je fais la course. Donc après, en radio sur Paris, vous en avez plusieurs. Hein, donc vous avez Alpha Taxi. Bon, la plus connue, c'est la G7. Mmh. Donc la G7, alors c'est à ça que je voulais en venir, c'est que les gens, quand ils entendent taxi parisien, pour eux, tout de suite, c'est G7. Alors G7 ne fait pas que du taxi parisien, mais G7, en fait, c'est juste une plateforme. Un peu comme une plateforme de VTC, mais pour les taxis.
D'accord.
Donc il y en a plusieurs. À l'époque, il y avait les taxis bleus aussi. Mmh. Après, il y en a d'autres, je ne les connais pas toutes, parce que c'est pas que je ne m'intéresse pas, mais voilà, moi, je suis déjà chez Alpha Taxi, je m'en préoccupe pas trop, mais il y en a d'autres.
Je reviens à tes conditions de travail un petit peu.
Oui.
T'as pas de bureau ?
Non.
Comment ça se passe, par exemple, quand tu veux faire une pause pour aller aux toilettes, parce que t'es comme tout le monde, quand tu veux manger, c'est une vie particulière. Quand
c'est,
même.
C'est une vie très particulière. Alors le gros problème, c'est qu'on est toute la journée assis. Donc déjà, au niveau de la ligne, c'est pas génial. Pour vous dire, moi j'ai pris entre 5 et 10 kilos depuis que j'ai commencé mon activité,
okay.
ce qui n'est pas génial. Mais après, alors dans Paris, on a l'avantage d'avoir des toilettes publiques assez, un peu partout, donc on peut s'arrêter pour aller aux toilettes. Pour manger, par exemple, aux aéroports, on a quand même un restaurant qui nous permet de se restaurer, de prendre à boire, des choses comme ça. Puis après, on peut s'arrêter comme tout le monde, hein, dans un bar, dans un restaurant, pour manger. Il y en a certains aussi qui choisissent de faire aussi le panier repas. C'est possible, hein. Il y en a beaucoup qui ramènent, comme un salarié lambda, leur gamelle, hein, tout simplement. Donc c'est assez variable.
T'arrives à avoir des confrères, parce que on parle des repas, est-ce que vous vous réunissez peut-être des fois à certains endroits, il y a des lieux de vie un peu ?
Ça arrive. Par exemple, aux aéroports, donc nous ce qu'on appelle la base arrière des taxis, c'est un peu un lieu de vie où, parce que des fois on attend très longtemps, ça peut arriver, donc on se retrouve là-bas, on discute, par exemple vous prenez... la base arrière à Roissy, vous avez des équipements de sport, amenés par les taxis, mais voilà, il y en a, ils font leur musculation, d'autres jouent au ping-pong, on a des terrains de pétanque, il y a de quoi faire.
Oui, je pose la question parce que c'est vrai que sinon ça doit être très très solitaire, quoi, si tu passes vraiment toute la journée dans ta voiture tout seul.
C'est vrai que ça peut être très très solitaire. Après, moi je sais que j'ai tissé des liens avec quelques taxis à qui je m'entends très bien, donc on s'appelle régulièrement. Des fois, bah, sur des jours de pause où on travaille pas, bah, on se fait un restaurant, on se fait une sortie, des choses comme ça.
Ok. Tu disais que tu es assis toute la journée, tu fais combien de bornes du coup en tout par an à peu près ? À la louche, parce que évidemment,
alors,
c'est variable.
En moyenne, dans le taxi parisien, on est entre 80 et 90 000 annuels.
80 et 90 000, ah ouais.
Annuel,
ouais. Oui, sachant qu'en plus, c'est pas une grande zone physiquement.
C'est pas une grande zone physiquement, mais pour te donner un ordre d'idée, sur une bonne journée, on est à peu près en moyenne à 200-250 km jour.
Ah oui, donc sur Paris, ouais, ça fait.
Ça fait
beaucoup de temps.
Ouais, ça, on
parce
se rend
que
pas compte. Hein.
250 bornes, tu pourrais finir sur la côte normande quasiment.
C'est ça. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller là-bas, jusqu'à là-bas.
Enfin, d'accord.
D'ailleurs, c'était une petite anecdote comme ça. J'ai un client qui m'appelle, qui me dit oui, je dois aller à la gare Montparnasse depuis la Défense. Donc j'ai dit bah ok, très bien, je viens te chercher à telle heure, je t'emmène à la gare Montparnasse. Je le dépose à la gare Montparnasse. L'après-midi se passe, tout ça. Et en fait, j'ai son ex-femme, qui est, à la base, c'est elle, ma cliente. J'ai son ex-femme qui m'appelle, il me dit, bah, est-ce que demain matin, tu peux retourner chercher, tu peux retourner le chercher parce qu'en fait, il a raté son train. Oui, bah ok, pas de problème. Donc le lendemain matin, je retourne le chercher, je l'amène à la gare. Je le laisse, j'envoie un message à son ex-femme pour dire, c'est beau, je l'ai bien déposé à la gare, tout va bien, il est à l'heure. Et dans l'après-midi, il m'appelle tout penaud. J'ai encore raté mon train. Est-ce que tu peux m'emmener à Nantes ?
Ah oui.
Donc voilà, donc j'ai fait un gare Montparnasse Nantes.
Ça fait une belle course là.
Ça fait une belle course. ça fait une belle course. Mais c'est ça aussi qui est bien. C'est moi parce que après voilà, il y a différents taxis. Il y a les taxis qui aiment pas faire de la route, qui préfèrent faire que des petites courses. Moi, j'aime bien faire des longs trajets parce que je suis quelqu'un qui aime rouler. Donc, moi, faire les longs trajets, ça me dérange pas.
Après, je dis ça fait une belle course, mais mine de rien, tu fais Nantes-Paris à vide derrière.
Il y a ça.
Donc, ça fait 4 heures de route.
C'est ça, à vide.
Ouais, ça fait quand même 4 heures de route à vide avec les frais que ça engendre.
Bah oui, donc les frais de carburant. Bon, après, bon, ça reste quand même une course rentable.
Oui.
Quand on regarde le montant de la course.
Pour revenir sur la route aussi, mais. Est-ce que des fois il y a des accidents et comment on gère quand on est taxi ? Parce que 90 000 bornes par an, il doit bien y avoir des petits accrochages ou des choses comme ça.
Alors moi, j'en ai eu un. J'en ai eu un, une dame qui m'est rentrée dedans sur le périphérique. Alors j'étais en clientèle en plus. Alors ce qui s'est passé, c'est que pour éviter que le compteur tourne trop vite et que le client à l'intérieur.
En plus, oui.
Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le numéro. Voilà, on s'est donné rendez-vous quelques heures après pour faire le constat. Mais ouais, généralement ça se règle plutôt facilement. Ça va encore. Ça peut être gérable.
Pourquoi les gens s'embêtent à avoir des embrayages ? Je vois que tu as une voiture hybride, c'est quand même vachement plus pratique, non ?
C'est beaucoup plus pratique. C'est vrai. C'est beaucoup plus pratique. Alors moi perso, moi qui suis très conduite, pour moi dans mon trajet quotidien, enfin pas quotidien, mais perso, j'aurais préféré une manuelle parce que bon, bah, le côté plaisir de conduire. Mais pour le travail que je fais, la boîte automatique, c'est ce qu'il y a de mieux.
T'aurais plus de jambe gauche si tu.
Ah oui, non, c'est, surtout avec les bouchons, c'est tout ça. C'est horrible.
C'est ça, c'est horrible.
Et pourtant, on en trouve encore des taxis qui sont encore avec des boîtes manuelles. Hein. Il y en a, ils n'arrivent pas à décrocher. Et
ils
voilà.
Ont le mollet gauche d'acier, quoi. Sur,
bah là, ouais, c'est pire que des cyclistes.
Et sur les confrères tout à l'heure dont on parlait, ce que j'ai oublié de te demander, c'est est-ce que c'est des confrères, est-ce que c'est des concurrents ? Est-ce qu'il y a une concurrence dans le taxi ?
Alors, très bonne question.
Je te sens presque gêné.
C'est assez aléatoire. C'est assez aléatoire parce qu'il y a quand même un côté concurrence. On le voit surtout aux aéroports. Parce qu'en fait, aux aéroports, c'est à la file indienne. C'est-à-dire qu'on attend notre tour, chacun son tour, on est l'un derrière l'autre. Et en fait, on arrive aux barrières, et arrivé aux barrières, on nous dit on doit aller à tel terminal. Et des fois, il y en a certains, ils courent un peu après l'argent et du coup, ils n'hésitent pas à te passer devant, à faire un peu n'importe quoi pour essayer de prendre la meilleure course. Mmh. Et ouais, il y a ce côté-là quand même qui est un peu dommage.
Parce qu'il vaut mieux, il vaut mieux quoi, aller au 2E parce que c'est international ou à Intel?
Ouais,
ou
des fois c'est ça. Des fois il y a de ça, mais c'est surtout celui qui sortira le plus vite, forcément, il y a potentiellement plus de chances de pouvoir revenir plus vite, faire une autre course, des choses comme ça en fait. C'est...
La question que j'allais forcément te poser, et on en a parlé un petit peu en préparation quand je t'ai appelé la première fois, pourquoi je dois monter dans un taxi plutôt que dans un VTC?
Ah, très bonne question. Pourquoi? Je dirais que le taxi connaît son secteur. Donc, forcément, la course se passera mieux en termes de route même, parce qu'il va connaître les raccourcis, il sait exactement où est-ce qu'il va. Après, honnêtement, il faut dire les choses comme elles sont. Si on parle de tarifs, le gros avantage du VTC, c'est que vous connaissez toujours le prix à l'avance. Mmh. C'est une obligation dans le VTC, c'est qu'ils sont obligés de fournir un devis avant de faire la course. Mmh. Donc vous savez déjà ce que vous allez payer. Dans le taxi, vous ne pouvez pas savoir. Mmh. C'est très aléatoire. Après, aujourd'hui, en termes de tarification, généralement, en course VTC ou en course taxi, les prix sont à peu près équivalents.
En fait, c'est la peur de l'inconnu presque qui pousse les gens vers le VTC.
C'est ça.
C'est vrai que pour l'avoir vécu, quand tu connais pas, que tu prends tes premiers taxis, tu te dis, oulala, ça va, le compteur devant, je sais pas pourquoi il tourne, comment il tourne.
C'est ça. Alors, comment il tourne? Alors, justement, il y a deux modes de fonctionnement. Il compte en temps ou en kilomètres, jamais les deux. En temps, en dessous d'une certaine vitesse, il va compter en temps. Par exemple, si vous ne roulez pas, ça va être le temps.
Ok.
Par contre, quand ça roule, ça va être le kilomètre.
D'accord.
Donc après, vous pouvez pouvoir calculer à peu près combien la course va te coûter quand ça roule.
Mais je veux dire, donc quand tu dis en temps ou en kilomètre, ça veut dire que c'est tout l'un ou tout l'autre, ou alors on roule, ça compte les kilomètres, et quand on s'arrête, il compte que le temps. Et
oui, c'est ça. En fait,
c'est mixte en fait.
La bascule se fait automatiquement.
D'accord. Donc si on s'arrête dans les bouchons sur le périph, ça bascule en mode temps.
C'est ça.
Quand tu redémarres, ça bascule en mode kilomètre.
C'est ça.
D'accord, ah oui, là pour le coup, donc plus la petite prise en charge donc qui est de 2,60
sur 2,60, Paris. Aujourd'hui on en a 2,60€.
Ouais. Très bien, et donc tout ça se calcule automatiquement dans le compteur.
Tout est fait automatiquement avec le compteur. Sachant que, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup dire que oui, les taxis c'est des voleurs, ils font des tarifications un peu comme ils veulent, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas la main sur la tarification. Mmh. C'est-à-dire, c'est un tarif réglementé. On ne peut pas dire, aujourd'hui, j'ai envie de mettre 3€ le kilomètre. Mmh. Je le mets. Non. C'est dans le compteur, c'est bloqué.
Ton compteur, tu peux pas y toucher.
Je peux pas le bidouiller.
D'accord.
Je peux pas le bidouiller. La seule chose que je peux faire, c'est soit mettre les forfaits, ou changer la tarification. C'est tout ce que je peux faire.
Je suis content d'être venu rien que pour avoir percé le mystère du compteur de taxi.
C'est vrai que c'est quelque chose de...
L'autre mystère, c'est votre statut. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses, et notamment quand il y a eu justement l'arrivée des VTC, et que c'était très médiatisé et tout ça, on entendait des taxis dire « c'est un métier qui coûte cher, en tout cas ça coûte cher de rentrer dedans, il y a des licences, il y a différents statuts, on peut être salarié, on peut louer une licence, etc. etc. » Ce qui n'est pas évident à appréhender quand on n'est pas dans le métier, oui. C'est vrai que pour le grand public c'était souvent vulgarisé. Aujourd'hui, toi, tu es artisan taxi, comment on devient taxi ?
Comment on devient taxi? Il y a deux écoles. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer un examen. Un examen qui est encadré par la préfecture et la chambre des métiers. Alors il y a deux possibilités. Moi, j'ai choisi la possibilité de préparer l'examen. Donc je suis passé par une école de taxi qui explique la réglementation du taxi, comment ça fonctionne, tout ce qui encadre le taxi. Et après, du coup, tu t'inscris à un examen qui se passe en deux parties. Il y a l'examen écrit, donc il y a 7 épreuves, donc 5 générales qui est les mêmes que le VTC et le taxi, et 2 épreuves bien spécifiques au taxi. Une fois que tu as réussi cet examen-là, tu reçois ton papier comme quoi tu as bien reçu, et après tu reçois une convocation pour passer l'examen pratique. Donc l'examen pratique, comment ça se passe? On se retrouve tous dans Paris, dans le 7e arrondissement, place de Breteuil, donc pas très loin de Necker. On est tous là. Et en fait, il y a deux examinateurs, un qui examine la conduite et l'autre qui évalue les connaissances du chauffeur. Donc il te pose plein de questions pendant la conduite. Et en fait, tu tires au sort une adresse et tu dois faire le trajet aller-retour.
Okay.
Donc là, il va étudier tes trajets, ton trajet, celui que tu as pris.
T'as le droit au GPS ou pas ?
Alors, elle est là la particularité aujourd'hui, c'est qu'on a le droit au GPS. Mmh. Et alors ça, c'est quelque chose... Bon, ça facilite les choses pour avoir l'examen, mais je trouve ça dommage.
Ah oui, parce que le cliché avant du taxi parisien, c'était qu'il connaissait toutes les
rues.
Ah
oui, quoi. C'est vrai que tu prends un vieux de la vieille, tu lui donnes n'importe quelle rue, il sait comment y aller, il sait où c'est. Et aujourd'hui, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on a plus ça. Mmh. Et par exemple, par expérience, moi quand j'ai passé l'examen pratique, on m'a donné une adresse, je ne sais même plus c'était quelle adresse que j'avais tirée. Donc déjà, il fallait situer sur le plan le trajet qu'on allait prendre, mettre l'adresse sur le GPS et partir. Sauf que moi, en fait, en étudiant le trajet, je savais qu'il fallait que je passe par là. Et l'examinateur qui était à côté, qui évaluait la conduite, donc j'ai pris un chemin, il me dit « Mais pourquoi vous n'avez pas suivi le GPS ?» Je dis parce que le GPS me fait faire un détour alors que si je passe par là, le trajet est plus direct. Mmh. Je dis mais vous avez un GPS, pourquoi vous en servez pas ? Je dis dans le taxi, la règle c'est de prendre le trajet le plus direct. Mmh. Elle dit ah d'accord. Et alors j'ai trouvé cette réflexion vraiment bizarre. Mmh. Parce que certes le GPS nous aide, hein, faut dire par exemple aujourd'hui Waze c'est le plus utilisé. Mmh. Ça nous permet de connaître le trafic. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant, mais c'est pas toujours le chemin le plus direct et des fois il fait faire un peu n'importe quoi.
Je regarde sur le haut de la voiture, je me permets.
Vas-y.
C'est le lumineux,
c'est ça.
Alors il y a marqué donc taxi parisien.
Voilà.
C'est plus comme avant, c'est plus un petit portique, hein. C'est un
gros, en fait, il y a
un gros buzzer.
Il y a différents modèles.
D'accord.
Il y a différents modèles. Il y a ces formes-là. Il y en a ce qu'on appelle la feuille. Donc c'est un grand truc qui monte, qui est tout en vert. Vous avez le fameux chapeau de gendarme, donc le truc classique. Là, on est sur des nouvelles générations de lumineux.
C'est le moment où tu lèves aussi des mystères.
Vas-y.
À quoi correspond chaque lumière ?
Alors chaque lumière. Alors donc sur un lumineux, depuis quelques temps, donc on a donc éteint. Donc là, le taxi n'est pas en service. Vert, c'est-à-dire qu'il est libre, donc on peut l'arrêter. Rouge, il est soit en clientèle, soit il va chercher un client. Donc il n'est pas disponible. Rouge, il n'est pas disponible. Après, en dessous, donc, la particularité du taxi parisien, c'est qu'on a trois tarifs. Donc le A, le B ou le C. Et selon le tarif, ça sera soit le A, le B ou le C qui sera allumé.
C'est ce qui veut dire ABC ?
Alors ABC, c'est le secteur. Ça dépend du secteur. Alors le A, c'est, on va dire, c'est le tarif de jour dans Paris, donc dans Paris même, et périphérique. Donc c'est de 10h à 17h, du lundi au samedi. De 17h à 10h le lendemain, on est en tarif B dans Paris. Et on est en tarif B en dehors de Paris et dans la zone du taxi parisien. Donc c'est le tarif de jour en dehors de Paris et dans la zone du taxi parisien, on est en B. Et après on passe en C qui est le tarif de nuit.
Donc plus la lettre est élevée, plus c'est cher.
On peut dire, c'est ça. Grossièrement parlant, c'est ça.
Une fois que tu as l'examen, comment tu as la voiture, j'allais dire la plaque, mais comment on appelle le petit truc qui est sur le dessus du taxi ?
Le lumineux, d'accord.
Très bien.
C'est le lumineux. Alors ça, une fois l'examen, on a la carte professionnelle de chauffeur de taxi. Mais ça ne nous donne pas le droit de conduire un taxi. Ce qu'il faut, c'est que il faut obtenir une licence, enfin tout le monde appelle une licence, mais nous c'est une ADS, l'autorisation de stationnement, et tout ce qui va avec. En fait, on a plein moi j'ai pas eu à effectuer les démarches administratives parce qu'en fait, comme moi je suis locataire gérant, c'est la personne à qui je loue qui s'occupe de toutes les démarches administratives. Mais du coup, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, il y a déjà le véhicule, il faut qu'il soit équipé taxi. Donc, c'est un véhicule lambda, comme de monsieur tout le monde, mais il doit être équipé taxi. Donc, l'équipement taxi, ça comporte donc le lumineux, le taximètre, la fameuse plaque qu'on voit sur le côté qui détermine l'ADS. Et donc du coup, une fois qu'on a tout ça, bah, là après, tout est déclaré en préfecture et tout, là on peut commencer à conduire.
Concrètement, toi, tu loues à la fois la voiture et la licence.
C'est ça.
Donc tu payes un forfait mensuel.
C'est ça.
Et tu peux travailler dedans.
C'est ça.
Il y a des gens qui achètent donc tout, la licence et la voiture.
Oui.
Et là, c'est ceux-là en fait pour lesquels c'est réputé être très très cher.
Alors c'est là. C'est ouais. là où c'est réputé d'être très très cher parce que déjà la licence, quand on achète une licence, on est en moyenne sur Paris, on est à 170 000 euros. Il y a une période de ça, c'était monté quand même à presque 300 000 euros la licence, ce qui est énorme. Donc oui, ça peut revenir cher.
C'est quasiment... Il y a des gens qui s'endettent, c'est le prix d'une maison hein, pour des gens. En fait, là, c'est s'endetter pour pouvoir bosser. Parce qu'il y a des gens qui s'endettent d'ailleurs, qui prennent un crédit pour acheter leur licence.
Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, on n'a pas le
choix. Mais par contre, ils la revendent quand ils partent à la retraite. Donc c'est une sorte de... C'est même pas un placement parce qu'il ne fructifie pas. Il peut varier en fait.
Oui, il peut varier. Après, s'il part à la retraite, alors il y a deux possibilités. Donc il part à la retraite, il peut la revendre ou il peut la louer. Il peut la louer aussi.
Il fait une rente.
Voilà, mais par contre, il est dans l'obligation de toujours renouveler sa carte professionnelle. Parce que si on n'a plus la carte professionnelle, on ne peut plus exploiter de licence.
Très bien.
Donc, pour pouvoir louer la licence, il faut quand même rester dans le circuit, entre guillemets, d'avoir toujours sa carte professionnelle.
Toi, si c'est pas indiscret, ça te coûte combien de louer par mois pour... C'est une sorte de droit à travailler, du coup
Aujourd'hui, en TTC, donc la location-gérance, ça me coûte 2760 euros.
Donc ça, c'est ce que toi, tu dois payer pour pouvoir être dans ta voiture et commencer à bosser.
C'est ça.
Donc les premiers 2700 euros que tu rentres, c'est pour rembourser déjà
c'est ça.
Ta location.
Voilà. Après, il y a d'autres choses à côté. Il y a la radio. Donc je paye une redevance aussi qui est de 310 euros. Voilà, donc il y a ça. Donc ça, c'est les charges fixes. Après, il y a le carburant. Bon, après, c'est vrai que dans les locations-gérances, quand c'est bien encadré, on n'a pas l'entretien, on n'a pas à s'occuper de l'entretien, du contrôle technique. Voilà, c'est un forfait global, donc on n'a pas à s'occuper de ça. Mais après, il y a tout ce qui est à côté. Donc, l'URSSAF, notamment. On a l'URSSAF, on a les impôts. Le chiffre d'affaires d'un taxi peut faire un peu tourner la tête. C'est vrai, les chiffres d'affaires. Mais ce qui revient réellement au chauffeur, il est beaucoup moindre parce qu'après il y a aussi la TVA à payer. C'est pour ça, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens nous disent oui, les taxis ils gagnent bien leur vie. Non, parce que on a quand même beaucoup de choses à payer. Après, c'est pareil, ça dépend aussi du statut. Moi je suis en entreprise individuelle
En fait, c'est ça, tu es locataire gérant mais en ayant toi-même une entreprise.
C'est ça.
D'accord.
C'est ça. C'est un peu comme. Comme le coiffeur qui loue les murs, mais le salon est à lui, enfin je veux dire la société est à lui, mais pas les murs.
Donc
c'est le même principe.
T'es une entreprise qui loue une licence et une voiture,
c'est ça,
pour travailler. Et en effet, derrière, tu vas payer tes cotisations, tu vas payer ta TVA, etc.
C'est ça.
Parce que quand tu dis en effet le chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre quand on paye une course.
C'est ça.
En fait.
C'est ça le chiffre d'affaires.
C'est pas ton salaire, c'est le chiffre d'affaires.
Voilà, c'est ça, c'est le chiffre d'affaires. Après, il y a tout qui est déduit. Les charges, on enlève les charges. Après, une fois qu'on a enlevé toutes les charges, on a notre bénéfice. Mais sur ce bénéfice-là, après, il faut qu'on paye nos cotisations sociales. Donc, moi, en étant en entreprise individuelle, il prend 40% quand même du bénéfice. Donc, c'est énorme. Après, oui, après, un chauffeur qui a sa propre licence, qui n'a plus de charges par rapport à sa licence, lui, potentiellement, il peut bien gagner parce qu'il a plus, à part sa voiture, il a plus la charge de la licence, il a plus de frais liés à la licence. Mais forcément, si on a moins de charges, on paye plus de cotisations aussi.
En résumé, si moi je te paye une course de 20 euros, il y a 40% de ça déjà qui va à l'URSSAF.
C'est ça. Voilà, c'est à peu près ça.
Il faut que les gens sachent quand ils te donnent 20 euros, c'est pas 20 euros dans ta poche.
C'est ça, non, c'est ça. Il y a 40% qui va dans les poches de l'URSSAF, il y a 10% de TVA qu'on reverse à l'État. Après, il faut penser au carburant. Dans le cas où c'est un artisan pur, où il a sa propre licence, il a les frais de sa voiture aussi à déduire. Donc, je veux dire, c'est...
Mais pour toi, tu as les 20 euros, moins 40%, moins 10% de TVA, et tout ça, tu le cumules sur le mois, et ensuite, ce total, il y a moins 3000 euros. De la voiture, de la, etc. Et donc à la fin, ça fait ton salaire.
C'est ça.
Voilà. Donc ça fait... Est-ce qu'on en vit bien à la fin du fin ?
On vit correctement. On va dire qu'on peut vivre correctement. Sachant que, après tous les petits plaisirs à côté, on n'a pas le temps de le faire. Parce que aujourd'hui, un taxi parisien. Alors, c'est un peu la particularité du taxi parisien aussi aujourd'hui, c'est qu'on est, on peut travailler 11 heures. Que 11 heures, parce qu'en fait il y a un système, ce qu'on appelle un eurodateur dans le compteur, donc qui est programmé pour fonctionner 11 heures. Donc par exemple, si je commence ma journée à 8 heures du matin, techniquement je la finis à 19 heures, je peux plus prendre de
course. Et t'as pas le droit de travailler.
J'ai pas le droit de travailler. Il me laisse terminer la course, mais une fois que la course elle est terminée, le compteur il s'éteint et je suis obligé d'attendre 6 heures, voire le lendemain, si les 6 heures ne passent pas dans la journée suivante. Pour pouvoir recommencer mon service.
C'est un dispositif de sécurité pour le client, je suppose. C'est ça. Pour éviter de rouler dans une voiture où le mec est réveillé depuis 15 heures de suite.
C'est ça. C'est ça. Mais il y a que, enfin, à ma connaissance, il y a que dans le taxi parisien, on a ce système de rodateur.
Tu les choisis tes horaires ?
Je les choisis. Je les choisis. C'est ce qui fait aussi le. C'est ce que j'aime bien aussi dans ce métier, c'est qu'on a la liberté de nos horaires. Ça, c'est vraiment un plus. Si un jour j'ai pas envie de travailler, je vais pas travailler. Le gros défaut de ce système là aussi, c'est que si je vais pas travailler, y a pas d'argent qui rentre.
C'est tout, mais un peu pour tous les indépendants en fait.
C'est tous les indépendants. C'est propre à tous les indépendants, effectivement.
Et je vois la machine à carte bleue, donc elle est là.
Elle est là, la machine à carte bleue,
elle est là, elle fonctionne. Elle est là, elle existe.
Voilà. Et après, le compteur.
Oui, j'allais dire, on ne voit pas le compteur.
C'est la grande question. Alors, le compteur, il est
posé, il est en haut, pardon.
Posé sur le rétroviseur. Il y a différents types de compteurs.
Mais donc, il est dans le rétro ?
Non, il n'est pas dans le rétro, en fait. Il est fixé sur le rétro. Le rétro est derrière, le rétro d'origine est derrière.
Ok.
Et le compteur est positionné sur le rétro.
Les informations s'affichent en surimpression sur le...
Tout est là.
Alors, c'est mortel, on dirait le truc de Retour vers le futur, quand même.
C'est un peu ça.
Le close, très indiqué, etc. On se croirait dans les chiffres rouges, les LED de Retour vers le futur.
Est-ce
que tu peux aller en 1985
ça sera bien. Si je roule à un moment donné...
Est-ce qu'à 88 miles à l'heure, tu t'envoles quand tu mets la destination? Ah oui, donc là, ça s'affiche en surimpression quasiment sur le compteur. Sur le rétroviseur, je veux dire.
Ouais, en fait, il y a une carte numérique qui est derrière avec l'affichage LED, en fait. Et en fait, tout autour, après, c'est une glace, comme sur un rétro classique.
Et donc, ton client, il voit derrière.
Directement. Alors ça, c'est une obligation aussi, c'est que le compteur doit être visible pour le client.
Petit instant cliché. On va élaguer quelques clichés avec des questions brèves, parce qu'il y en a plein.
Je disais,
on t'a jamais demandé de suivre cette voiture. Tu m'as dit, je l'ai jamais fait.
Non.
Est-ce que tu le fais si on monte dans la voiture et qu'on te dit, suivez cette personne?
Très bonne question.
Est-ce que c'est une course? Est-ce que c'est une destination?
À partir du moment où le client il paye, techniquement, on le fait.
Toi, tu roules.
Voilà, je le fais.
On peut te dire, comme dans les films un peu mélancoliques, roulez, je ne sais pas où je vais, vous roulez dans Paris, faites-moi visiter.
Alors moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai eu une histoire un peu similaire. J'ai récupéré une cliente. Elle voulait manger une pizza.
Ah oui, elle t'a dit, amenez-moi une pizza.
Voilà. Et non, elle avait son restaurant. Elle me dit, ouais, voilà, je veux aller à tel endroit. Mais il était tard. Du coup, la pizzeria était fermée. Elle me dit, ouais, mais vous connaissez une pizza qui est encore ouverte et tout? Je regarde sur internet. Je vois, celle-là, elle est encore ouverte. On y va. Non, il n'y a plus de service. On fait plus de service. Je dis, on va chercher une autre. Et en fait, voilà, ça a duré une bonne heure quand même. Une bonne heure, juste pour prendre une pizza.
Et voilà, je l'ai ramenée chez elle, elle était contente, elle a mangé sa pizza, et puis voilà.
Est-ce que tous les taxis écoutent RMC ?
Très bonne question. Moi, personnellement, j'écoute pas la radio.
Ah.
Enfin, quand je suis en clientèle, je mets pas la radio.
D'accord.
Si le client me demande, je mets, ça me pose pas de problème. Mais moi, par respect pour le client, parce que bon, les clients qui veulent pas la radio, je
sais pas pourquoi il y a ce cliché sur les taxis qui écoutent RMC.
Mais oui, non, il y en a. Après, bon, il y a tellement de communautés dans le taxi que c'est assez variable. Hein. C'est... Ah, moi, par exemple, je sais qu'il y a une forte communauté haïtienne dans le taxi. Souvent, quand on les voit à Roissy, ils ont la musique à fond, du compas. Voilà, il y a des moments, c'est très festif. Après, on voit des taxis qui jouent de la mandoline ou de la guitare dans leur voiture. Enfin, okay. C'est assez éclectique.
À l'arrêt, donc, je suppose.
Oui, à l'arrêt, bien sûr.
Sinon, ça fait des animations. Mais
c'est assez éclectique dans le taxi.
Est-ce que tu fais faire le tour du périph' aux touristes ?
Non.
Parce que ça colle à la peau. Hein.
Ça colle à la peau.
Le coût de la visite aux touristes.
Alors aujourd'hui, pour celui qui essaye d'arnaquer le client, justement, enfin le touriste là-dessus, pour lui, c'est pas rentable, clairement. Parce qu'aujourd'hui, depuis, alors si je dis pas de bêtises, je crois que 2015 ou 2017, je sais plus exactement la date, il y a des forfaits pour les aéroports qui ont été mis en place. Donc au départ, alors que ce soit de Paris pour l'aéroport ou de l'aéroport pour Paris, c'est des prix fixes. Donc généralement, c'est affiché partout dans l'aéroport, donc on peut pas arnaquer le client là-dessus. Après, faut pas se leurrer, ça existe encore, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, surtout que les clients maintenant, ils sont plutôt bien renseignés aussi. Moi, je sais que j'ai déjà eu le cas. Des clients, ils sont avec leur GPS derrière. Voilà. Et puis des fois, ils vous posent des questions, mais pourquoi vous passez par là ? Parce qu'eux, ils n'ont pas la spécificité taxi. Donc du coup, nous, on a les couloirs de bus. Donc ils sont surpris. Ils disent, mais pourquoi vous passez par là ? Parce que j'ai les couloirs de bus, je peux passer par là. Ça nous évite de faire. Ah d'accord, voilà, c'est des petits trucs comme ça.
Est-ce qu'il y a souvent des gens qui font des choses, des cochonneries sur tes sièges arrière ? Parce que ça, c'est pareil dans toutes les histoires de taxi. Et alors, je crois que je te le dis de... Comment dire ? Une fois, il y a un de tes collègues qui parlait énormément dans un taxi que j'ai pris et qui racontait ce genre de trucs-là.
Alors moi, ça ne m'est pas arrivé. Pas encore. J'ai un ami...
Donc c'est un classique, visiblement. Tu dis pas encore comme si c'était une sorte de rite de passage.
Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce que... Oui, pas régulièrement, mais ça arrive.
Donc ça, c'est quand on travaille le soir
Généralement, oui. Ouais. Généralement. Après, on a des personnages un peu atypiques. Moi, je suis tombé sur un couple. Alors lui, il était très âgé et il était pas en grande forme. Et il était avec une femme un peu plus jeune que lui, mais pas de beaucoup non plus. Mais très, on va dire entreprenante.
D'accord.
C'est parce que vous voyez déjà dans le regard, voilà. Et puis la façon dont elle rentrait dans la voiture. Bah, quand t'es une femme et que t'as une jupe assez courte, bon bah. Essaye de faire en sorte que ça se voit pas trop. Non, mais voilà, limite le grand écart pour tout montrer, voilà, le petit geste, voilà, on sentait que voilà, il y avait quelque chose.
Dans un tout autre registre, attention là dans le cliché. Est-ce que tu détestes conjointement les vélos, les piétons et Anne Hidalgo ?
Oui. Oui, clairement. Clairement.
Les trois ou un seul des trois ?
Les trois. Les trottinettes aussi.
Ah, les trottinettes, j'ai oublié les trottinettes. J'habite plus sur Paris, j'ai oublié les trottinettes.
Les trottinettes. Alors, je vais modérer un peu mes propos. Je suis pas contre l'idée des vélos, des trottinettes, tout ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas très bien encadré. Et il y a des débordements. Moi, plus d'une fois, j'ai failli percuter un cycliste ou une trottinette parce qu'il respectait pas la priorité. Voilà. Et puis, madame la maire de Paris, comment te dire, elle rend la vie des Parisiens impossible. C'est infernal. C'est vraiment infernal. De circuler dans Paris, des changements de sens de circulation dans des rues qu'on a l'habitude de prendre et que du jour au lendemain, ça se trouve en sens interdit, on se retrouve coincé, on sait pas où passer. C'est l'enfer.
Je me fais l'avocat du diable, notamment pour les cyclistes, etc. Est-ce que un des problèmes aussi, alors encore une fois, j'habite pas à Paris, donc j'expérimente plus trop, mais est-ce qu'un des problèmes, c'est pas qu'on est justement dans une phase de transition où les infrastructures sont en construction et que tout le monde doit partager un peu une sorte de grande zone de travaux ?
Alors, sur certaines portions dans Paris, ça peut se comprendre. C'est vrai que c'est encore en travaux, donc on sait pas trop. Mais je prends un exemple, la rue de Rivoli. La rue de Rivoli, donc on est en plein centre de Paris, on peut pas faire plus au centre de Paris. La rue de Rivoli, donc elle est interdite à la circulation, sauf pour les bus et les taxis. Ils ont fait des pistes cyclables, de quoi mettre deux camions, de semi-remorques faciles. Et les cyclistes trouvent encore le moyen de faire n'importe quoi. Moi, plus d'une fois, j'ai retrouvé un cycliste sur le couloir de bus. Et en plus, en plein milieu, il faisait des zigzags et tout. Et je lui ai fait la réflexion, j'ai dit, il y a une piste cyclable. Là. Il dit, oui, mais là, c'est un couloir de bus. Je dis, oui, et je dis, j'ai le droit d'être sur le couloir de bus. Oui, des fois, c'est...
Oui, parce qu'avant, les cyclistes avaient le droit d'être dans les couloirs de bus. S'il n'y avait pas de piste cyclable, ils ont toujours
le droit. C'est-à-dire, c'est toujours toléré. Mais c'est vrai que c'est un non-sens parce qu'on...
Oui, s'il y a une piste maintenant.
Et c'est vrai que ça c'est problématique. Après, pour en revenir à la fameuse maire de Paris, quand on prend par exemple la place de la Bastille, à la base, c'était un rond-point. Du coup, on faisait le tour. Plus maintenant, c'est qu'en fait, ils ont fermé toute une partie pour les piétons, les cyclistes. Et en fait, ils ont fait des trucs incompréhensibles. Vraiment incompréhensibles parce que même nous, en tant que taxi, qui avons l'habitude de passer par là, on s'y perd parce que déjà il y a un feu tous les 10 mètres. Il y a un endroit, si vous prenez une voie, vous pourrez pas aller en face, vous êtes obligé de tourner à droite. Enfin, c'est une horreur. C'est une horreur.
Toujours dans les clichés, est-ce que tu prends la carte bleue? Parce qu'il y a souvent eu ce truc de les taxis qui prennent pas la carte bleue.
Alors, je pense que là je vais me faire des ennemis dans le taxi. Alors, moi je prends la carte bleue. Alors, c'est un sujet très sensible. Très très sensible à carte bleue.
C'est sensible pourquoi? Parce que pas prendre la carte bleue, ça permettait de faire du travail au noir ou prendre du liquide.
Oui, notamment. Après, bon, il n'y a pas que ça, c'est qu'aussi ça engendre des frais. Faut pas se cacher quand même. On a quand même des frais sur les transactions bancaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2017, le taxi, c'est pour ça que je te dis, je vais me faire des ennemis. Le taxi est dans l'obligation d'accepter la carte bleue. Depuis 2017. Après, forcément, il y a des. On peut contourner la loi, ce qui est possible. Après, voilà, je leur jette pas la pierre, ceux qui refusent la carte bleue. C'est vrai que des fois, pour des courses à 7 euros, 10 euros, faire une carte bleue pour ça, voilà, c'est. Après, c'est pas une question de vouloir mettre de l'argent sous la table, des choses comme ça, mais c'est juste que. À payer des frais pour 10 euros, c'est vrai que c'est pas...
Je pose la question du travail dissimulé ou du liquide dissimulé, c'est que est-ce que c'est techniquement possible, en fait, vu que t'as un compteur, vu que t'as une radio, vu que tu vois, je me demandais même si c'était gérable, en fait, parce que ta course, elle est déclarée, donc tu peux pas vraiment...
C'est le jeu du chat et la souris.
D'accord.
C'est que tant que tu te fais pas prendre, tout va bien, mais le jour où tu te fais prendre, ça va un peu moins. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que... Aujourd'hui, si vraiment en cas de contrôle fiscal, s'ils veulent vraiment pousser les choses, ils sont capables de connaître à 10 centimes près la somme réelle qu'on aurait dû déclarer. Alors je m'explique. Bon, c'est un peu technique. C'est que les anciens compteurs kilométriques, c'était les petits rouleaux qui tournaient. Et en fait, on appelait ça une chute. Quand on passait de 1 à 2, ça faisait une chute. Et chaque chute correspond à un montant. Et dans le taxi, ça compte de 10 centimes en 10 centimes. Donc une chute correspond à 10 centimes. Donc ils comptent le nombre de chutes et ils arrivent à connaître le montant exact. Voilà. Mais après, c'est dans des cas vraiment extrêmes.
Oui,
voilà,
oui.
Après, c'est vrai que c'est le jeu du chat et la souris. Et aussi, on va dire que c'est le gouvernement aussi qui nous pousse à faire ça aussi. Parce que quand on voit... à quel point on est quand même taxé, enfin pas forcément que dans le taxi, dans beaucoup de métiers d'indépendants, on est quand même très taxé et je peux comprendre qu'on veut des fois
la tentation, quoi.
Voilà, ne pas déclarer certaines sommes.
Le résumé de toutes ces questions un peu clichés, c'était aussi pour en arriver à la grande question. Est-ce que t'es sympa? Parce que c'est vraiment, je te l'ai dit avant l'interview, je le redis ici pour nos auditeurs, je sonde un peu mon entourage, des amis, à chaque fois que je fais une émission sur Occupation, et je dis, tiens, je vais voir telle profession, et ils me disent un peu quels clichés ils ont, etc. Et j'ai eu des retours, mais exécrables, sur les taxis parisiens. Tout le monde m'a dit, ou presque, ouais, ils sont pas sympas, ouais, ils sont comme ci, oui, ils sont comme ça, oui, il y en a un qui a essayé de m'avoir une fois, oui. Est-ce qu'ils sont sympas, les taxis parisiens? Parce que là, on parle depuis une demi-heure, tu m'as l'air très sympa.
Alors moi, je me considère comme un taxi sympa. Après,
comment on en est arrivé à cette image en fait ?
Bah, alors je vais me faire l'avocat du diable. Je prends un exemple des aéroports. Mmh. Les aéroports, généralement, on attend en moyenne une heure pour avoir une course. Quand on attend une heure et qu'on fait une course à 15, 20 euros, ça peut être rageant. Mmh. Ça peut être rageant, je peux comprendre que ça fasse rager et que des fois, bah, du coup, ça fait que le taxi il est pas très aimable parce qu'il tombe sur une course pas terrible. Et en plus de ça, si derrière on vous dit paiement par carte bleue, facture, tout ça, ça va l'irriter un peu plus. Mais d'un autre côté, moi je me dis que bah, ça fait partie du métier. Des fois on gagne, des fois on perd. On gagne pas à tous les coups, mais voilà, notre métier c'est de transporter un client d'un point A à un point B. Peu importe la distance, bah voilà, on se doit de le faire. Après, le client, lui, il n'est pas responsable de ça, quoi. Lui, il a besoin d'aller à un point A, un point B. Bah, voilà, on fait ce métier et on a choisi de faire ce métier et du coup, on se doit de faire ces courses-là.
L'arrivée des VTC, ça a changé un petit peu quand même l'approche.
Ah, ça a beaucoup, beaucoup changé. Ouais. Ça a beaucoup changé parce que alors aujourd'hui, c'est plus vraiment nos concurrents, mais à l'époque, oui, c'était une grosse concurrence. Parce que beaucoup s'étaient détournés du taxi pour prendre le VTC. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse parce que déjà, les tarifs sont moins intéressants. Et avec l'arrivée des forfaits pour les aéroports, c'est plus intéressant de prendre un taxi. Un exemple, tu commandes un VTC à 22h à Orly pour Paris, 70 euros. Alors qu'en taxi, sauf si tu vas dans le nord, au plus cher, ça va te coûter 37 euros. Même si tu le commandes, ça va te coûter 41 ou 44 euros, grand maximum.
Il y avait ce cliché, je me souviens, c'était quasiment une sorte d'opposition qui était tout le temps. En fait, c'était le VTC, il va vous accueillir avec le sourire et une bouteille d'eau. Il y avait la fameuse bouteille d'eau, je ne sais pas pourquoi, c'était devenu une sorte de symbole de, de l'opposition. L'accueil a vraiment changé dans les taxis aussi suite à ça ?
Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je sais que... On va dire, pour me démarquer un peu des autres, j'essaie de bien accueillir mes clients, pas forcément avec la bouteille d'eau, mais voilà, j'ouvre la porte. Dans le VTC, par exemple, quand on apprend la réglementation, dans le VTC, à la base, c'est une obligation d'ouvrir la porte aux clients.
Ok.
Et personne ne le fait.
Ils sont obligés, en théorie.
C'est une obligation. C'est une obligation, ouais.
C'est marrant.
Voilà. Après, autre chose, c'est que pendant très longtemps, le taxi, le client donnait une adresse. On devait le déposer pile poil à l'adresse. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Dans le secteur.
Très bien.
Pas 10 km non plus, mais voilà, on n'est pas obligé de le déposer pile poil à l'adresse.
Pourquoi, en fait, cette différence-là ?
Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, c'est quelque chose qui est arrivé dans la réglementation du taxi depuis peu. Donc, voilà.
Je termine toujours avec la même question. Si t'as quelqu'un devant toi qui te dit j'ai envie d'être taxi, j'ai envie de faire comme toi, j'aime bien conduire, j'aime bien le relationnel, j'aime bien rencontrer des gens, qu'est-ce que tu lui conseillerais ?
De se lancer. De se lancer. Après, c'est pas un métier facile. C'est pas un métier physique, mais mentalement, c'est quand même épuisant parce que faut avoir l'œil partout. Les bouchons, la circulation, le bruit, le stress aussi de l'activité. Vu que c'est en dents de scie. Mais voilà, s'il veut tenter l'aventure, il faut le tenter. Moi, je sais que j'ai très longtemps hésité, et puis je me suis dit, faut que je me lance. Et aujourd'hui, honnêtement, même si moi j'ai commencé dans une période très compliquée avec le Covid, ça a été très très compliqué les débuts, mais voilà, je regrette pas parce que j'aime vraiment mon métier et je suis content de le faire.
Eh ben, merci beaucoup.
Je t'en prie, merci à toi.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, rien de plus simple, laissez une évaluation et un commentaire sur votre appli de podcast préféré. C'est gratuit et ça aide pour la promo. Pour la promo également, vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes, c'est @OccupationPod. Occupation est au pluriel. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.
Thank you. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.